des livres plein les oreilles. Bonjour à vous qui nous écoutez via Canal M ou encore via CKVL ou encore en balado aujourd'hui à l'émission Des livres pleins les oreilles. Eh bien, j'ai très hâte de rencontrer une autrice qui m'a donné du fil à retordre, je dois dire. Oui, j'ai été choisie par les éditions de Mortagne. Quel cadeau pour lire à voix haute un de ces livres destinés aux adultes, à cette autrice qu'on va découvrir ensemble, un livre qu'on peut sans nul doute, bien ma foi, qualifier d'horreur. Eh oui, j'ai découvert avant vous l'histoire d'une femme née de la plume de Marie-Lou Addison, mon invitée. Une femme donc qui tue comme on respire. Elle se raconte, elle se disculpe, elle se justifie, c'est jamais de sa faute. C'est de l'horreur, mais c'est aussi beaucoup d'humour, tant les agissements hautement disproportionnés de ce personnage font rire et frémir à la fois. Comment une seule et même personne peut-elle écrire des livres jeunesse et des livres d'horreur? C'est entre autres ce que je vais demander à Marie-Lou Addison. Ah oui, bien sûr, le titre du bouquin, ça s'appelle « Bouche cousue ». Également à l'émission, on va découvrir le prix du livre audio Audiolib et puis nous aurons une chronique de Faline Bobier de Caeb qui va nous faire découvrir quelques livres audio disponibles pour les personnes mâles ou non-voyantes. Aussi, on va se demander quel genre d'homme serait Émile Zola s'il était encore de ce monde. Une occasion pour entendre quelques extraits de ses livres en audio. Et puis, on ira consulter le catalogue Lizzie à la recherche d'une bonne nouveauté policière à se mettre entre les oreilles, juste avant d'écouter, ou plutôt de m'entretenir avec Marie-Lou Addison, qu'on va joindre par téléphone, cette chanson « Maman bouche cousue ».
Maman bouche cousue, taille dans ses tissus de chair. Son salaire de misère pour élever mes frères. Que mon père lui a fait dans le dos par derrière, avant de la laisser tomber. Tomber, tomber. Tomber le cul par terre, tomber dans le ruisseau. Ma mère tombée de haut. Maman bouche cousue pleure dans ses tissus de chair. Et nous on s'habitue à marcher le cul nu. Que mon père nous a fait dans le dos par derrière, avant de nous laisser tomber. Torcher, torcher ma mère. Le cul du petit frère. Torcher, torcher ma mère. Balayer la. Maman bouche cousue, taille dans ses tissus de chair. Son salaire de misère pour élever mes frères. Que mon père lui a fait dans le dos par derrière, avant de la laisser tomber. Tomber, tomber ma mère. Tomber le cul par terre. Tomber dans le ruisseau. Ma mère tombée de haut.
J'ai pas vu venir la voiture. Elle était dans mon angle mort. C'était sûrement un signe.
J'ai entendu le bruit de son klaxon et c'est ce qui m'a fait sursauter de la sorte. Normalement, je ne suis pas nerveuse au volant. Mais ce soir-là, j'imagine que j'étais fatiguée. Qui ne l'aurait pas été dans ma situation ? Je venais de me taper une soirée affreuse à tenter de déplacer des meubles du salon alors qu'une émission jouait tranquillement pour un Charlie indifférent. Un truc sur des gros qui veulent perdre du poids, mais qui continuent de s'empiffrer dès que le médecin a le dos tourné. Comme si la caméra n'allait pas capter leurs moindres faits et gestes. Je soupçonne ces personnes d'être soit inconscientes, soit idiotes. Et je finis toujours par conclure que la deuxième hypothèse est la bonne. Bref, j'avais les bras en compote, un mal de tête me vrillait les tempes et pour couronner le tout, Charlie ne m'avait pas fait penser à acheter des sacs de plastique. J'en avais besoin, tout de suite. Je ne pouvais pas attendre au lendemain, sauf qu'à 7 heures, un dimanche soir, il ne me restait pas beaucoup de possibilités. Je savais que seul un dépanneur ou une épicerie serait ouvert et encore. J'aurais bien fait une rapide recherche sur Internet pour m'en assurer, mais ma connexion venait d'être coupée. Une histoire de facture non réglée. J'avais demandé à Charlie de m'avertir lorsque je devais payer les comptes, mais il oubliait constamment. À moins que ce ne soit moi qui ai égaré la facture quelque part dans la maison.
C'était un extrait de Bouche Cousue signé Marilou Addison qu'on vient d'entendre. Bonjour Marilou.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très très bien, merci. Marilou, vous êtes née dans le berceau de l'écriture, vous?
Oui, c'est vrai, on peut dire ça. En effet, ma mère est auteure. Elle n'écrit plus tellement, mais oui, elle a écrit pendant plusieurs années.
Sous le même nom?
Non, son nom de famille. Vous voulez dire sous son nom
oui,
à elle?
Oui, c'est ça?
Oui, c'est son nom à elle. Oui,
ah d'accord, d'accord. Mais vous voulez pas me le dire ou...
Non, c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas le même nom de famille.
Alors, ah, bah oui, ben j'imagine.
Elle s'appelle Suzanne Julien.
D'accord. Bon, et vous, c'est votre nom, Addison, c'est le nom
oui,
de...
Oui, c'est mon
d'accord,
nom.
D'accord, d'accord. Ouais. Alors, évidemment, Marilou, quand j'ai fait la recherche pour cette émission-là, j'ai voulu savoir, parce que très vite, on m'a dit que vous aviez beaucoup écrit, énormément écrit, mais beaucoup pour les enfants
oui.
aussi. Alors, je suis allée faire ma petite recherche et effectivement, j'ai vu... qu'il y avait plusieurs catalogues, hein, plusieurs séries que vous aviez écrites, mais
ouais.
vous avez aussi écrit un roman pour adultes. Et là, vous nous arrivez avec deux histoires d'horreur. On va déjà parler de Bouche Cousue. On vous réinvitera, je pense, pour nous parler de l'autre qui appartient à la série Cobaye. Mais Bouche Cousue, voulez-vous bien m'expliquer comment ça fonctionne dans votre cerveau d'autrice? Est-ce que vous dites autrice?
Ben moi, je dis auteur,
d'accord.
Fait, ça me va très bien, les deux me vont très
non,
bien.
Non, non, mais regardez, j'aime bien demander, comme ça je sais où je m'en vais. Alors, comment faites-vous, dans votre cerveau d'auteur, pour
ouais.
passer d'histoires d'enfants à des histoires d'horreur?
Ben, en fait, je pense que ça va aussi en lien avec ce que je lis. Je lis un peu n'importe quoi,
ah.
c'est-à-dire que ma palette est très large d'intérêt en littérature, donc je peux lire des romans jeunesse, je peux lire des albums, je peux lire des romans d'aventure, je peux lire même de la chick lit, de la romance, je peux lire de l'horreur.
Okay.
Je pense que le seul que je lis pas, c'est peut-être du fantastique, mais je lis quand même un peu de science-fiction, donc j'adore tout lire et évidemment, j'adore tout écrire. Puis aussi, ce qui fonctionne bien, c'est que comme j'écris plusieurs séries dans des genres différents, j'ai pas l'impression nécessairement de me répéter, parce que je change de genre à chaque fois, alors je renouvelle,
oui.
je fais des nouvelles choses, alors ça c'est très intéressant en tant qu'auteur.
Bah, écoutez, moi, en tout cas, je me suis bercée de vos mots, je dois vous dire que j'ai eu un plaisir, mais absolument... fou et incommensurable à lire l'histoire de cette femme. On va pas rentrer dans les détails parce que très rapidement, on pourrait déflorer ce
oui.
qui n'est absolument pas déflorable. Alors, parlons simplement de cette Béatrice
ouais.
qui, comme je le disais dans mon introduction, vous savez, c'est fou parce que récemment, je faisais une entrevue avec Émile Proucloutier qui a lu la trilogie de David Goudreau.
Oui.
Bon, La Bête. Hein?
Ouais.
Alors, et je me disais qu'il y avait un lien de parenté entre les deux personnages principaux. C'est-à-dire.
C'est drôle parce que vous n'êtes pas la première à me faire ce commentaire-là. Oui, effectivement, je suis sur un groupe de lecteurs d'horreur, puis il y a d'autres personnes qui ont dit ah, oh, le personnage de Béatrice est. Le personnage de la bête peuvent avoir des liens, en effet, dans leur façon de réfléchir, de voir la vie.
Oui, oui. Et dans la façon d'agir. Et comme me disait Émile Proucloutier en entrevue, parce que c'est lui qui a lu toute cette trilogie-là chez Vues et Voix, dont on va avoir l'occasion d'en reparler parce qu'on va faire une émission spéciale, d'ailleurs, ici, à des livres plein les oreilles. Mais il me disait, c'est complètement fou, parce que qu'il fasse l'amour ou qu'il fasse l'horreur, de toute façon... Il est absolument pas conscient ou de la beauté ou du côté effrayant quoi de son truc. Et Béatrice, elle est comme ça.
Oui,
elle est comme ça.
C'est ça, du bien et du mal, qui est vraiment décalé de la réalité. Et pour elle, c'est quelqu'un qui va à l'église, c'est quelqu'un qui a des préjugés, qui a des, tu sais, des petites manies, mais elle va au contraire faire des meurtres, et pour elle, c'est tout à fait normal. Donc oui, il y a une grosse ambivalence entre qui elle est, ce qu'elle fait, disons.
Et en plus, elle fait ça dans un... C'est un petit peu une ville avant, hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais avec...
Dans le sens que c'est une ville qui pourrait être n'importe où, c'est ça?
Oui, puis dans le sens où ce sont beaucoup de gens bien pensants, avec tous ces personnages, la secondaire, qui veulent bien faire, mais qui veulent remplacer la police quand même, parce que, bon, voilà, en tout cas, hein, c'est un... Parce que c'est ça qui est fou aussi, quoi.
Oui, puis elle est chanceuse d'être atterrie là, en fait, de pouvoir se vivre dans cet univers-là, mais en tout cas, ce sera pas nécessairement facile, parce que c'est un peu une course contre la montre dans ce roman-là, où elle essaie d'échapper à tous les gens qui peuvent découvrir qui elle est réellement, qu'est-ce qu'elle cache dans ces...
Exactement. Alors, on peut dire que tout son univers est un immense bordel.
Oui, c'est ça. Hein? C'est bien dit.
Et je me suis dit, est-ce que je devrais dire bazar? Mais je pense que c'était pas suffisant.
Ah non, bordel, c'est mieux.
Hein? Ouais. C'est mieux. C'est-à-dire que c'est le bordel dans sa tête.
Oui.
C'est le bordel dans sa vie.
Clairement.
C'est le bordel dans sa maison, alors au sens propre du terme.
Exactement, littéral, tout à fait.
Où on pourrait, si on tire un divan, on pourrait trouver facilement un cadavre.
Ben, c'est ce que je trouvais drôle dans le fait d'écrire ce personnage-là. Tout ce qui est accumulé, toutes les couches qu'on peut enlever. Puis comme on est dans sa tête, le lecteur ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ces sacs-là? Qu'est-ce qu'il y a? Là, elle pousse un divan. Hop, on vient de voir apparaître quelque chose. Hop, elle ouvre une armoire. Hop, on vient d'apparaître quelque chose. Genre, je trouvais ça le fun de jouer avec ce personnage-là. C'est ce qui a défini à la base l'écriture du roman. Je voulais écrire une histoire sur un personnage qui a des troubles d'amassement compulsif dans un roman d'horreur. Alors, je trouvais que l'univers était merveilleux.
C'était ça le point de départ, donc.
Ouais, c'est vraiment ça qui m'a inspirée. Puis ça m'a pris quand même 2 ans, si c'est pas plus, pour faire mon plan. Parce que quand je fais des romans d'adultes, je fais vraiment un plan. Mm-hmm. Puis c'est un auteur, un collègue à moi qui me disait « Fais ton plan, tu vas voir, ça va super bien fonctionner après. » Et ça m'a pris beaucoup de temps. Mais quand je suis arrivée à la fin de mon plan, que j'ai compris comment ça se terminait, que c'était parfait, je savais quoi écrire. Puis là, ça a été un charme à écrire après ça. Ouais, ben vous l'avez lu, hein, vous savez.
Oui, absolument. C'est un charme. Hein. Écoutez, vraiment, moi là, j'exhorte tout le monde, procurez-vous ce bouquin, même si c'est pas en audio, parce que vous savez, une voix, il y a des gens qui aiment, puis il y en a qui aiment pas. Alors si vous supportez pas ma voix, l'écoutez pas en audio, mais au moins lisez-le, le bouquin,
votre voix est parfaite. Par contre, parce que on se demandait avec les éditrices, qui on allait pouvoir demander de faire cette voix-là. Elle a une particularité quand
bien
même,
sûr.
Béatrice.
Mais on n'en dira pas plus. On rentre sur un terrain glissant, là.
Voilà. Quand c'était la première fois que j'ai entendu votre voix, c'était parfait.
Bon.
J'ai éclaté de rire dans ma maison.
Je voudrais qu'on en écoute un autre extrait, surtout pour illustrer ce dont nous parlions de cette femme qui tue parfois même sans s'en rendre compte et puis tout à fait naïvement, parce que c'est plus pratique. Tiens.
Ben voilà, c'est bien dit.
Je n'ai lâché le volant qu'une fraction de seconde, juré. Je n'ai pas fait exprès. Pas que je m'en sois voulu, de toute manière. J'étais plutôt indifférente. Sauf que ça allait m'occasionner davantage de problèmes. Je l'ai senti à la seconde où ma voiture a fait une embardée vers la droite, vers ce piéton qui ne m'a jamais vu venir. Non mais, que fabriquait-il là aussi, alors qu'il était si tard? J'ai pourtant tenté de freiner, sans succès. J'aurais dû faire changer les freins il y avait un moment déjà. Pas besoin d'ajouter que je n'avais pas encore eu le temps de m'en charger. Lorsque je me suis enfin arrêté, je savais que le corps du piéton ne se trouvait plus à l'avant du véhicule, mais qu'il avait glissé sous celui-ci entre les deux roues. Assez difficile d'aller le repêcher. C'est pourquoi J'ai décidé de peser encore un peu sur l'accélérateur. Il serait plus facile pour moi de hisser le corps dans le coffre si je me contentais de passer dessus pour le dépasser. Bon, c'est vrai que mon coffre, déjà plein, risquait de déborder. Mais je n'avais pas tellement le choix.
Et ça me fait encore rire, parce qu'il ne faut pas que les gens pensent qu'on lit ça comme ça, mais qu'on ne rit pas. Cette scène-là, j'ai été obligée de la refaire plusieurs fois, parce que je l'imaginais en volant de sa voiture. Oh, et si j'avance un tout petit peu, je vais aller crapoutir un peu plus. C'est vraiment délicieux comme écriture. Vous faites rire quand vous écrivez, Marie-Lou Addison. Est-ce que vous vous dites, oh, est-ce que je vais trop loin, ou est-ce que vous rigolez?
Je ris, ouais, non, je ris. Mais dans la vie en général, je ris beaucoup. Et je pense que mon humour se retrouve dans beaucoup de mes romans, mais oui. Dans les romans d'horreur, c'est spécial quand même, parce que c'est plutôt rare qu'on ait une touche d'humour, mais c'était pas nécessairement voulu. Puis j'ai eu ce commentaire-là de mes lecteurs, lectrices, qui me disaient « Ah, j'ai tellement ri! » Puis là, je me disais « Ouais, est-ce que j'ai atteint ma cible? Est-ce que c'est vraiment de l'horreur? » Mais je pense qu'il y en a qui aiment ça, c'est de l'humour noir, en fait, tu sais. Donc, je pense que oui, je pense que ça plaît.
Mais c'est normal qu'on rit, parce qu'elle est tellement...
Ouais.
Absurde dans son comportement et d'une naïveté meurtrière tellement grandiose, quoi. C'est que ça ne peut que nous faire rire. Écoutez, là, à chaque fois que c'est le bordel, puis qu'il y a quelqu'un qui arrive, soit de la police, soit la voisine, soit le machin, puis que là, c'est. Alors, en tout cas, non, c'est que c'est drôle. Mais c'est pas pour ça que vous n'avez pas atteint votre objectif.
Non.
C'est pas parce que c'est drôle que c'est pas complètement horrifiant. Mais.
Oui, c'est ça.
Mais heureusement que ce l'est.
Oui,
non, c'est parce que si ça avait été juste premier degré, là, honnêtement, je suis pas sûre que j'aurais embarqué à ce point-là. Moi, je pense que c'est le fait qu'elle en est drôle, la bonne femme.
Qu'elle en est touchante.
Oui. On se dit, oh là 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 là, ils vont la mettre en prison, c'est sûr, machin. Non, mais voilà, quoi. Et puis, dites-moi, j'ai remarqué, parce que vous avez aussi participé à l'écriture de la série Cobaye, dont on reparlera, parce qu'on est en train... c'est en cours de route, c'est un projet en cours de route, ça va être une série donc, qui va également exister en livre audio. Et vous avez écrit un des 7 ou 8 bouquins, parce que je pense qu'il y en aura peut-être un 8e.
En fait, il y en a 7 dans la série. Il n'y en aura pas d'autres. Par contre, il y a un chapitre final qui se retrouve seulement en numérique, ligne sur le site des éditions de Mortagne. Mais il y en a 7 parce que chacune des lettres du mot cobaye, c'est un personnage différent. Alors, il y a le cobaye C pour Cédric.
Ah oui! Pour Olivier, B. Ah oui, d'accord.
Ce sont les 7 cobayes. Il y a seulement le S qui est pour 2 personnages, c'est un couple. Mais sinon, donc moi, j'ai le cobaye A qui est le cobaye Anita.
Oui.
Et il n'y a pas d'ordre non plus dans cette série-là.
Non.
Ça se passe les 7 livres au même moment.
Oui.
Alors, peu importe l'ordre, le livre qu'on veut lire en premier, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment 7 personnages qui vont vivre cette histoire-là au même moment.
Alors, comme je le disais, c'est certain qu'on va faire un spécial cobaye quand ça va sortir en audio chez Vues et Voix, ça c'est sûr. Mais j'ai remarqué une chose dans Cobaye, dans toute la série et également dans Bouche cousue. Et je me dis, c'est sûrement un souhait de chez De Mortagne.
Ouais.
Tous les livres font 328 pages.
Ah oui, c'est ce format-là. En fait, quand c'est les cobayes qui sont sortis en premier. Et quand j'ai écrit Bouche cousue, c'est le même nombre de mots environ, parce que nous, les auteurs, on fonctionne beaucoup en nombre de mots.
Mm-hmm.
Et puis là, je leur ai dit... Au début, ils voulaient le faire dans un format plus gros. Puis je leur ai dit, j'aimerais ça avoir le même format que Cobaye pour que ce soit une série pour les prochains, s'ils font d'autres livres, tout ça dans la collection. Okay. En fait, fait que c'est un peu ça le désir de ce format-là. Moi, je le trouvais parfait. Il est entre le format poche et le grand format, si on veut. Il est facile à transporter, donc on aimait ça.
Ouais. Parce que moi, je me disais, pour un auteur ou une auteure, tout d'un coup, il a peut-être envie, lui, qu'il y en ait 50 pages de plus. Comment on fait après pour
appeler
tout ça? Ça doit être quand même une gymnastique littéraire, non?
Au niveau des pages précisément, tu sais, mon livre a peut-être plusieurs mots de plus ou plusieurs pages de plus en format manuscrit, mais au niveau de la mise en page, les infographes sont géniaux là-dedans. Là, ils sont capables d'agrandir le caractère. Donc ça, on peut jouer là-dessus. Ce qui fait que moi, mm-hmm. si ça tourne entre 55 et 65 000 mots, disons, là, je dis un chiffre au hasard, ça peut rentrer dans le 328 pages.
Bon, écoutez, alors là, vous répondez à ma question et vous m'éclairez. Donc j'imagine qu'on a aussi éclairé les gens gens qui nous écoutent, Marie-Lou Addison,
oui.
Auteure de Bouche cousue, donc, qui est sortie aux éditions de Mortagne et qui maintenant existe en production livre audio. Ça s'est fait chez Vues et Voix et c'est à notre catalogue livreaudio.vuesetvoix.com. Ben, lu par moi-même, mais je voulais surtout qu'on parle du bouquin parce que c'est la mission que s'est donnée cette émission des livres pleins les oreilles. Merci beaucoup, Marie-Lou Addison.
Merci à vous, ça m'a fait super plaisir.
À bientôt.
Mais oui, bonne journée.
Tes cheveux ondulaient comme des rivières. Nos ombres par terre, ton couteau de poche dans nos mains qui se serrent et quelques gouttes de sang. Nos corps ne savaient pourtant comment donner le vertige à celui qui le prend. Je mentais un peu pour calmer les aimants qui m'attiraient sous tes dents. To create
Maud Odette et Philippe B sur les ondes de Canal M, en balado peut-être ou encore à CKVL. Le prix du livre audio, Audio Lib, a été remis à Née d'aucune femme de Franck Bouys. Oui, c'est un livre dont nous avions déjà parlé à cette émission. Non seulement là, il vient de recevoir le prix du livre audio, Audio Lib 2020, donc, mais il a également reçu le prix des libraires, le grand prix des lectrices de Elle Policier, le prix Babelio également, littérature française 2019. Il est lu par Cachou Kirsch et Simon Dupré. Cachou Kirsch est une comédienne et musicienne bruxelloise. Elle est sociologue de formation. Et puis, depuis 2003, elle jongle avec un petit plaisir non dissimulé, c'est-à-dire entre grosses productions théâtrales et petits projets passionnants. Entre la vivacité, nous dit-on, du jeune public et les studios d'enregistrement, notamment pour faire ce livre audio « Née d'aucune femme » avec Simon Dupré, qui lui a étudié en France à l'École nationale supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg, donc en Alsace, et qui poursuit sa carrière en Belgique. Un petit résumé avec ce très très court extrait. « Mon père... On va bientôt vous demander de bénir le corps d'une femme à l'asile. » « Et alors, qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela ? » demandai-je. « Sous sa robe, c'est là que je les ai cachés. » « Mais de quoi parlez-vous ? Les cahiers, ceux de Rose. » Ainsi sortent de l'ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin. Quelques mots sur Franck Bouys, qui a été lauréat de plus d'une dizaine de prix littéraires, qui nous offre, c'est du moins ce qu'en pensent beaucoup les critiques littéraires, qui nous offre avec « Née d'aucune femme » la plus vibrante de ses œuvres, un roman sensible et poignant, qui tente à confirmer son immense talent à compter les failles et les grandeurs de l'âme humaine. Le 2 octobre 2019, dans Libération, on pouvait lire « Le dernier roman de Franck Bouys est écrit avec un langage léger et souple, comme le personnage principal de Rose, jeune fille aînée d'une famille pauvre, dans la France d'avant l'automobile. Une histoire intense et touchante » qui a dû être dans ces grandes lignes celle de nombreux et nombreuses petites gens des siècles passés et mériterait une version filmée. En attendant d'en avoir une version sur grand écran, en voici un extrait du livre audio.
Je venais d'avoir 14 ans. Je vivais à la ferme avec mon père, ma mère et mes trois sœurs. Les Landes, que ça s'appelait. D'ailleurs, ça doit bien toujours s'appeler pareil, étant donné que les endroits changent pas facilement de nom. Même quand les gens s'en vont. On était 4 filles, nées à 1 an d'écart. J'étais l'aînée. Les filles valent pas grand-chose pour des paysans. En tout cas, pas ce que des parents attendent pour faire marcher une ferme, vu qu'il faut des bras et entre les jambes de quoi donner son nom au temps qui passe. Et moi et mes sœurs, on n'a jamais rien eu de ce genre entre nos jambes. Si j'ai pas entendu 1000 fois mon père dire que les filles, c'est la ruine d'une maison, je l'ai pas entendu une seule. Il se cachait même pas de nous 4 pour le dire bien fort, comme si on était seuls responsables du malheur qui lui pesait. Nous, ses propres filles, fabriquées avec son propre sang et celui de ma mère, qui écoutait en tordant le nez, mais qui disait jamais rien. Qui a jamais tenté de le contredire, ou alors si c'est arrivé un jour, j'étais pas là.
Dans La Libre Belgique, on écrit « Quelquefois, il faut savoir dire la violence. Rares sont ceux qui, comme Franck Bouys, parviennent à écrire l'indicible, à caresser l'innommable avec tant de finesse et d'intensité. » Inutile de vous dire que « Née d'aucune femme » de Franck Bouys mérite vraiment d'être écoutée en livre audio. C'est un petit chef-d'œuvre qui, je vous le rappelle, vient d'être récompensé par le prix du livre audio Audiolib. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission « Des livres plein les oreilles ». C'est animé pour vous et réalisé par Clotilde Sey. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Je vais m'entretenir avec Faline Beaubier qui nous parle de deux livres, ma foi, fort intéressants, une bio et un roman. Et puis, on va se demander si Zola vivait maintenant, quel genre d'homme il serait. Et puis, il y aura aussi quelques nouveautés. Bref, ne manquez pas la deuxième partie de l'émission dans quelques secondes. Des livres plein les oreilles, la suite. Et la suite, eh bien, ce sera en compagnie de Faline Beaubier qui nous présente un roman de Gabrielle Lisa Collard et une biographie signée Laurent Beurdelet, la biographie de Xavier Dolan. Également, si Zola vivait maintenant, quel genre d'homme serait-il? Avec pour nous l'occasion d'écouter un extrait de L'Assommoir, le 7e volume des Rougon-Macquart, et d'écouter également un petit montage que j'ai fait parce que Zola est un des auteurs certainement le plus traduit, et même en livre audio, ça se répercute, et donc je trouvais ça rigolo de prendre un texte comme Nana et de voir tout ce que ça donnait en langues étrangères. Et puis, si le temps le permet, on découvrira une nouveauté chez Lizzie, c'est La clé de Salomon de José Rodriguez dos Santos, lu par Philippe Allard. Thank you. C'est fou, hein? 5 accords. Même si vous n'êtes pas musicien, je peux vous dire que ce sont des accords que vous entendez très souvent dans toutes les chansons de la Terre. Mais là, placé comme ça, avec cette rythmique-là, ça a donné tellement de... Qu'est-ce que j'entends derrière? Ah, ce sont des travaux. J'avais l'impression que c'était peut-être une contrebasse qui reprenait... Ce sont des travaux. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez? On est en direct, ou presque. Alors, voilà donc pour cette foule sentimentale interprétée à l'instant par Chilly Gonzalez et quelques autres musiciens autour. Bonjour, Faline.
Bonjour, Clotilde, ça va?
Oui, ça va très, très bien, Faline. Merci d'être là une nouvelle fois pour nous proposer au moins 2 livres et pourquoi pas 3. Je voudrais qu'on commence peut-être par La mort de roi. Je me disais d'abord, quand j'ai vu le titre sur votre courriel, j'ai dit, oh, ça doit être La mort du roi. Mais non, c'est bien La mort de roi.
Oui, il faut dire que j'ai choisi des titres un peu assez différents l'un de l'autre, mais c'est pas grave. La mort de roi, c'est écrit par Gabrielle Lisa Collard. C'est son premier roman, donc c'est un peu la naissance d'une écrivaine. Et le livre, c'est un peu difficile à décrire. Le titre, La mort de roi, ça vient du fait que le personnage principal, qui s'appelle Max, qui est une femme, elle a eu un chien qui c'était vraiment son seul compagnon, son confident, sa source de calme un peu, qui rend l'âme au début du livre. Et il y a quelque chose dans le cerveau de Max qui se déclenche à ce moment-là, qui saute, qui frappe.
Ouais, à cause de la douleur. La douleur lui fait péter les plombs, comme on dit.
Ouais. Et donc, il y a l'effet, c'est comme une explosion un peu de violence. On a appelé le livre un peu une épopée montréalaise, mais c'est surtout, je dirais, le côté plutôt noir, sombre, à cause des événements du livre.
Ah, OK.
Mais ce que j'ai trouvé intéressant, donc, il y a des meurtres qui sont commis dans le récit. On a aussi comparé ça à la violence. C'est un livre qui est sorti il y a... plusieurs années, un livre qui s'appelle American Psycho de Bret Easton Ellis, donc avec un peu, qui a été tourné en film d'ailleurs, avec un peu la même violence. Mm-hmm. Et moi, j'avais trouvé ça, ça me faisait penser beaucoup à un autre livre situé à Montréal, mais écrit en 1964, qui s'appelle Le Cassé de Jacques Renaud, qui est vraiment comme une classique maintenant de la littérature québécoise. Donc, c'est vraiment le cassé, c'est un personnage pauvre habitant à Montréal. Et le langage du livre, c'est le joual. Donc, c'est la langue populaire. C'est un peu la même chose ici qu'on retrouve ici. Mais il y a aussi, comme dans le cassé, que je recommande beaucoup, et je pense qu'on l'a dans notre collection.
Ah, le cassé de Jacques Renaud.
Le cassé.
Excusez-moi.
C'est peut-être mon français, le cassé, comme quelqu'un qui n'a pas d'argent.
C'est ça, le cassé. Oui, oui, c'était ce que j'avais compris. non, c'était bien ce que j'avais compris.
OK, très bien. Alors, mais je trouve qu'il y a des ressemblances entre les deux. Et il y a aussi le même s'il s'agit d'événements violents, il y a quand même souvent des observations comiques dans le livre de Collard.
OK.
Je trouve que ça vaut la peine de lire.
OK. On peut parler quand même d'un policier, d'un film, d'un livre d'horreur parfois ou non? On peut pas aller jusque-là.
C'est difficile à classifier, je trouve.
Oui. Un petit peu de tout ça, quoi.
Oui.
Alors, je vous en propose un extrait, bien sûr. La mort de roi.
OK.
Les étoiles phosphorescentes collées au plafond se sont mises à ondoyer. Ça m'a donné mal au cœur. Jaillit l'hiver. C'est la nuit tout le temps. Celui-ci venait juste de commencer, et je voulais déjà mourir. La lumière étouffante des lampadaires rebondissait sans fin entre les nuages et la neige. Quelques semaines plus tôt, on avait accroché des guirlandes multicolores dans la cour pour que ça soit moins glauque quand on envoyait pisser la chienne, sans grand succès. Le spot des voisins s'est éteint. Les cèdres qui dansaient dans le vent ont jeté une ombre stressante sur les rideaux. J'ai eu peur. La même peur que quand t'es petit et que tu montes les escaliers avec le sentiment d'être poursuivi, mais en pire. Mon chum m'a kické encore. Tourne-toi, tu me kicks. Sorry. Je t'aime. Moi. La chienne a soupiré. J'ai fermé les yeux. Je pense que j'ai dormi. Le centre de ma poitrine était si serré que j'avais du mal à respirer. Je me suis tournée vers mon chum pour me coller contre lui. Peut-être que personne ne le saurait jamais. Il était trop tard pour revenir en arrière. Puis je regrettais un peu. Je serais plus jamais en paix. J'allais toujours avoir peur.
Oui, quand même, hein? Drôle d'ambiance, hein?
Ouais, ouais. Mais je pense que ça dépend des goûts, mais je pense que ça vaut la peine.
D'accord. Alors, La mort de roi, roman de Gabrielle Lisa Collard. Et puis, vous nous arrivez avec une biographie plutôt qu'un autre roman. Cette biographie qui s'appelle L'Indomptable, Xavier Dolan, puisqu'il s'agit de lui, L'Indomptable, écrite par Laurent Beurdelet. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on en connaît beaucoup sur ce jeune homme, mais aussi qu'on n'en sait rien, finalement.
Oui, je me rappelle quand j'ai vu le premier film que j'ai vu de lui, c'était c'est quoi là, j'ai tué ma mère.
Oui, oui.
Et j'adorais. Et celui qui a écrit le livre, la biographie, c'est un professeur de l'Université de Reims en France. Et il dit pourquoi est-ce qu'il a décidé d'écrire ce livre? Il dit: j'ai été interpellée par sa personnalité atypique. Il ne craint pas de se livrer, même sur ses sentiments les plus profonds. De plus, je ne me souviens pas d'avoir vu un cinéaste prendre des positions aussi engagées. Parce que, et il se rappelle, il y avait un épisode des Carrés Rouges sur le tapis rouge du Festival de Cannes en 2012. Donc, il portait...
un carré.
En solidarité avec le mouvement étudiant au Québec à cette époque-là.
Ouais.
Alors, ouais.
Alors, donc, il est question, bien évidemment, de ce jeune Xavier Dolan, 20 ans, de cette ascension fulgurante, c'est le moins qu'on puisse dire, qui se ramasse, entre autres, au Festival de Cannes en 2009, hein, et dont le travail a déjà été...
Je pense qu'il avait 20 ans.
Ah, c'est ça, exactement. Et puis, qu'il n'a jamais arrêté, parce qu'on aurait peut-être pu penser, oh, bon, ben voilà, tu sais, c'est un jeune, allez, il a vidé sa tirelire, il a fait son film, tout le monde est content. Mais non, il n'a jamais arrêté. Qu'on l'aime ou non, on ne peut, je pense, hein, que s'incliner devant la passion de faire du cinéma qui l'anime.
Ben oui. C'est un peu, je pense, comme la première fois qu'on a vu un film de Scorsese. C'est vraiment un auteur, c'est-à-dire qu'il a une sensibilité qui est très particulière à lui.
Ouais.
Et des actrices aussi avec qui il va travailler souvent, comme Anne Dorval.
Oui, oui.
J'aime beaucoup son œuvre. Et je pense que, comme vous avez dit, on pense qu'on sait tout sur lui parce qu'il est assez ouvert en conversation, mais il y a quand même des choses qu'on va découvrir. En lisant les livres. Ouais.
Alors, donc, L'Indomptable, Xavier Dolan, c'est écrit par Laurent Beurdelet. J'en ai un petit extrait aussi. On l'écoute.
Okay.
Xavier Dolan est homosexuel. Il n'en éprouve ni honte ni embarras. Lorsque, à 16 ans, il annonça son orientation au sein de son établissement scolaire, le Collège Notre-Dame-de-Lourdes, dans la banlieue de Montréal, les élèves se montrèrent singulièrement compréhensifs et amicaux. Xavier en tira même un certain bénéfice, puisqu'il gagna en popularité. Il fut élu roi du bal de fin d'année. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu questionnement de sa part, et son lot de soirées à se torturer à ce propos. Adolescent, enfermé dans sa chambre, il cherchait des réponses en visionnant des films LGBTQ. Ceux-ci, le plus souvent brillants et vivifiants, ne lui offraient néanmoins que bien peu de perspectives réconfortantes pour sa vie d'adulte. Ce n'était que récits empreints de suicide, peine de cœur, harcèlement et homophobie. Vers l'âge de 12-14 ans, découvrant que sa sexualité n'était pas celle de la plupart des autres, il perçut qu'il déplaisait aux enfants de son âge et confessa qu'il collectionnait les fausses petites amies. Il se souvient, au cours de sa scolarité du secondaire, de la venue d'un organisme ayant tenu une séance d'information sur l'homosexualité. Ce fut un moment très particulier pour lui alors qu'il entendait parler de ce concept qui lui semblait assez abstrait. mais qu'il ressentait déjà.
Voilà un extrait de l'indomptable Xavier Dolan. Je voudrais vous rappeler que je m'entretiens avec Faline Bobier de CAEB parce qu'on ne veut pas dans cette émission oublier qu'il y a aussi des personnes non-voyantes ou malvoyantes pour qui le livre audio est d'abord et avant tout un outil et que CAEB eh bien, fait la promotion, notamment ici à l'émission, de ces livres-là qui leur sont accessibles. Il nous reste un petit 30 secondes. Vous auriez voulu, si on avait eu plus de temps, peut-être nous parler de La maîtresse de l'horloger de Denis Monette. Vous nous en dites quelques mots avant qu'on se quitte?
Je vais essayer. Monette, c'est peut-être l'opposé de Madame Collard, dans le sens que ses livres sont souvent plutôt des épopées, des histoires de famille.
Ouais.
Mais ce livre, La maîtresse de l'horloger, il avait décidé de prendre la retraite et puis il a changé d'idée quand il avait plus que 80 ans. Et il a dit que les artistes, les écrivains, les comédiens, les chanteurs, la retraite n'existe pas. On meurt avec son savoir-faire. Donc, heureusement pour nous, il a décidé d'écrire ce livre qui est vraiment l'histoire d'un couple. C'est l'histoire de Jacques, qui, après 18 ans de vie commune avec une nouvelle conjointe, Muriel, décide de retourner auprès de sa première épouse, de laquelle il n'avait jamais divorcé. Donc, c'est un peu l'histoire de ce qui se passe aux deux personnes dans ce couple.
Intéressant. La maîtresse de l'horloger de Denis Monette. Je manque un peu de temps pour nous en faire écouter un extrait, mais je ne doute pas que ce soit également un livre à se glisser entre toutes les oreilles. Merci beaucoup, Faline Bobier.
Et merci, Clotilde.
On se retrouve prochainement.
Oui, bonne lecture.
Merci à vous aussi.
On s'est presque touché, on s'est même presque connu. J'ai failli tout croire, mais le mystère se faisait lourd. J'ai failli m'oublier, m'abandonner comme un chiot. Je crois bien que je t'aimais m'aimer, mais le silence se faisait lourd, beaucoup trop lourd. Je voulais te toucher, vraiment mettre les mains, mordre et me laisser mordre, mais ton absence se faisait lourde. Je voulais que tu te montres, que tu te racontes, que tu te dises. Il me fallait te sentir, mais le doute pesait lourd, beaucoup trop lourd. On s'est jamais vu, tu ne t'es jamais présenté. Et je t'attendais, je te cherchais, je te convoitais et je te croyais. Thank you. on s'est presque touché, oui presque retrouvé. J'ai failli te rejoindre, mais les distances se faisaient lourdes. T'aurais pu me maudire, me mentir, me repousser. T'aurais pu retourner mon appel. Oh, les silences se faisaient lourds. On s'est jamais vu, tu ne t'es jamais présenté. Je t'attendais, je te croyais, je te convoitais et je te cherchais.
Voyant la feuille de route, Jean-Sébastien Laliberté de l'autre côté s'est dit « Ah tiens, on va parler de Zola » et il s'est souvenu que Jim Corcoran avait sorti un album à un moment donné qui s'appelait Zola Vélo, dont est tirée d'ailleurs cette chanson-là qui s'intitule « On s'est presque touché ». Quelle bonne idée! Alors Zola, oui, Zola, avec l'aide de chercheurs spécialistes, Actualité, qui est un site, que je vous recommande, vous pouvez vous y inscrire absolument gratuitement si vous aimez tout ce qui est nouvelle, actualité littéraire, c'est vraiment bien fait, et vous pourrez, en vous inscrivant, recevoir ça chez vous. Eh bien, Actualité, où je m'abreuve abondamment pour y puiser quelques nouvelles à droite et à gauche comme ça, vous propose d'explorer ce que seraient devenues certaines grandes figures littéraires françaises si elles avaient vécu en ce début du XXIe siècle. Qu'aurait fait Voltaire, par exemple, avec un téléphone intelligent dans la poche? Ou qu'est-ce qu'il aurait écrit Rimbaud sur Tinder? C'est un petit peu ça l'idée. Alors aujourd'hui, il nous propose un Zola plus écologique que naturaliste, qui est littéralement en guerre contre Instagram et ses dérives. Zola, écrit-on là, est résolument moderne et progressiste. Bon, rien de réactionnaire chez lui, pas de nostalgie d'un passé qui serait meilleur. Après tout, n'imagine-t-il pas dans Travail, en 1901, un ingénieur qui fait fonctionner une vaste usine aux vitres claires à l'énergie solaire, en 1901. Ce côté visionnaire de Zola, poursuit-on dans l'article, pourrait conduire le lecteur d'aujourd'hui à voir en lui un écologiste avant l'heure, et ce d'autant qu'extrêmement soucieux de la cause animale. D'ailleurs, il écrivait « Pourquoi la souffrance d'une bête me bouleverse-t-elle ainsi ? Pourquoi ne puis-je supporter l'idée qu'une bête souffre au point de me relever la nuit, l'hiver, pour m'assurer que mon chat a bien sa tasse d'eau ? Pourquoi toutes les bêtes de la création sont-elles mes petites parentes ? Pourquoi leur idée seule m'emplit-elle de miséricorde, de tolérance et de tendresse ? Pourquoi les bêtes sont-elles toutes de ma famille, comme les hommes, autant que les hommes ? » Disait Zola, écrivait Zola. Il conduit aussi à supposer donc un écrivain s'emparant des supports numériques et cherchant à en tirer le meilleur parti, par exemple, animer un blog, publier des articles en ligne. Ce ne seraient sans doute pas des choses jugées indignes par le romancier, nous dit-on. Mais ce faisant, Zola entendrait agir sur son temps, bien sûr, commentant l'actualité politique et sociale de son pays. Polémiste, sans visage. Zola théorise un modèle de littérature objective et référentielle duquel la part du roi est a priori, ou la part du moi, pardon, est a priori effacée. Les maudites lunettes qu'on a du mal à mettre sur le nez, vous savez pourquoi? Parce que j'ai très très mal à l'arrière des oreilles, comme vous, comme nous tous en ce moment, à cause de quoi? Du maudit masque. Bon, d'ailleurs, la correspondance de Zola comporte peu de confidences. En tout, il est tenu. Il est très contrôlé, le Zola. On peut donc supposer qu'Émile serait horrifié face aux dérives narcissiques contemporaines et à leur procédé. On parle là du selfie, bien sûr, ou des publications sur Instagram. Par contre, j'aurais dû dire en revanche, il y a un sens certain de la communication dans ses écrits. Il connaît le poids de l'article pour lancer un article, un artiste ou un sujet, par exemple Manet, dont il annonce la place au Louvre à Dreyfus, qu'il défend dans un article prodigieux d'habileté rhétorique. Vous vous souvenez peut-être de J'accuse. Bref, il a fait la preuve de ses talents d'homme de presse. Aujourd'hui, il confierait sans doute aux journaux en ligne la mission de promouvoir et de défendre. Émile Zola. En livre audio, on a l'embarras du choix pour écouter ses bouquins à ce cher Émile. Ne vous attendez pas parfois à une qualité sonore parce qu'on peut entendre tous ces livres sur des sites qui sont gratuits. Bon là, au niveau de la qualité sonore, c'est so-so. Mais par contre, j'ai trouvé des extraits très récents de L'Assommoir, lu en 2018 par Philippe Lebeau et en 2019 par Sarah Jalabert. Comme je ne savais pas laquelle choisir, eh bien, je vous présente les deux. Extrait de L'Assommoir de Zola.
Quand Gervaise s'éveilla, vers 5 heures, raidie, les reins brisés, elle éclata en sanglots. L'entier n'était pas rentré. Pour la première fois, il découchait. Elle resta assise au bord du lit, sous le lambeau de perse déteinte qui tombait de la flèche attachée au plafond par une ficelle. Et lentement, de ses yeux voilés de larmes, elle faisait le tour de la misérable chambre garnie, meublée d'une commode de noyer dont un tiroir manquait, de 3 chaises de paille et d'une petite table graisseuse sur laquelle traînait un pot à eau ébréché. On avait ajouté, pour les enfants, un lit de fer qui barrait la commode et emplissait les 2/3 de la pièce.
Au-dessus d'une lanterne, aux vitres étoilées, on parvenait à lire entre les 2 fenêtres « Hôtel Boncoeur, tenu par Marsouillet », en grandes lettres jaunes, dont la moisissure du plâtre avait emporté des morceaux. Gervaise, que la lanterne gênait, se haussait, son mouchoir sur les lèvres. Elle regardait à droite, du côté du boulevard de Rochechouart, où des groupes de bouchers devant les abattoirs stationnaient en tabliers sanglants. Et le vent frais apportait une puanteur par moments, une odeur fauve de bêtes massacrées. Elle regardait à gauche, enfilant un long ruban d'avenue, s'arrêtant presque en face d'elle, à la masse blanche de l'hôtel de Lariboisière, alors en construction. Lentement, d'un bout à l'autre de l'horizon, elle suivait le mur de l'octroi, derrière lequel, la nuit, elle entendait parfois des cris d'assassinés. Et elle fouillait les angles écartés, les coins sombres, noirs d'humidité et d'ordures, avec la peur d'y découvrir le corps de l'entier, le ventre troué de coups de couteau.
Émile Zola, donc, j'ai été estomaqué en faisant mes recherches quand j'ai constaté le nombre de traductions qu'on peut trouver en livre audio. Toujours de Zola, bien sûr. Nana est certainement le livre le plus lu dans différentes langues étrangères. J'ai pour vous un florilège d'extraits de Nana, entre autres. C'est en 9 langues différentes.
Le finestre della casa davano sul fiume e sui poggi deserti della riva opposta.
Ein paar Leute saßen wartend in den Logen und im Parkett und verloren sich zwischen den rotsamtnen Sesseln.
Men nattlampan hade blivit genomdränkt med olja och kastade ett darrande sken som endast bildade en rund fläck i taket.
С огромными ручищами и физиономией жандарма только собралась снять с огня баранину, уже начинавшую подгорать.
El conde de Vandevre se llevó a Blanche, pero el nombre de Nana, como un eco, ya se oía en los 4 rincones del vestíbulo, en un tono más alto y con un deseo aumentando por la espera.
The church-like sense of self-absorption which the place inspired, full as it was of whispering voices and the sound of doors banging.
Ikkunat pitkinä jonoina, Michaudieren ja Neuve Saint-Augustinin kaduille, anastaen paitsi kulmarakennusta.
Nej, nej, sagde han pludselig. Ventetiden er alt for kedsommelig. Nu går jeg.
Nana par-ci et Nana par-là. Est-ce que je sais, moi? Est-ce que je connais toutes les filles de Paris?
Voilà, on a fini par le français. Mais c'était un montage en italien, en allemand, en finnois, en russe, en suédois, en espagnol, en danois, en anglais et en français. Évidemment, deux extraits de l'œuvre de Émile Zola qu'on peut entendre absolument partout, gratuitement ou non, pour retrouver entre autres l'univers des Rougon-Macquart, dont Nana, l'un des plus célèbres romans de la saga, et l'épisode numéro 9. « Alors, laissez-moi remercier mes invités du jour, Marie-Lou Addison, auteure de Bouche cousue, et Faline Bobier, qui nous a offert une chronique de son Ontario natal. Merci aussi beaucoup à Jean-Sébastien Laliberté. Je vous rappelle que cette émission est réalisée et animée pour vous par Clotilde Sey, qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine et qui vous souhaite de bonnes lectures par les oreilles.